À voix nue, Guillaume Erner, cette semaine avec...
Bernard-Henri Lévy. Je suis écrivain, philosophe et je fais des films.
Premier épisode, une enfance des deux côtés de la Méditerranée. Bernard-Henri Lévy, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre domicile parisien. Quand êtes-vous devenu BHL ?
Quand j'ai commencé à écrire des livres, puisqu'un écrivain... Les écrivains font partie de ces gens qui ont plusieurs naissances, en tout cas deux. Donc il y a la naissance biologique, et puis il y a la naissance à l'écriture, à la parole publique, ou même à la parole à une autre sorte de parole intime. Et c'est lors de cette seconde naissance-là que on m'a donné ce nom. C'est pas moi qui l'ai choisi. Et c'est drôle d'ailleurs, un deuxième baptême qui est fait par la rumeur publique. Et pas forcément la plus amicale. Enfin, en tout cas, c'est ainsi.
Justement, qu'est-ce que ça fait de se battre avec un acronyme, avec une image ?
Ça fait un drôle d'effet dans la tête, bien sûr, parce que cet acronyme, c'est drôle d'ailleurs. Les premiers temps, il y a 40 ans, 45 ans peut-être, je ne sais plus, je les détestais. Je disais à l'époque que j'avais un prénom et que j'avais un nom et que je n'aimais pas cette façon de m'acronymiser ou de me dénommer. Et puis, par la force des choses, il est entré en moi. Et il est entré en composition avec les autres moi-même. J'ai écrit un livre qui s'appelait Comédie, où je mettais en scène cette espèce de volière que devient très vite le cerveau d'un écrivain, et qui fait que des mois disparates... Cohabitent, se querellent, se renvoient la balle, s'affrontent les uns aux autres, vraiment, ou au contraire font alliance. Donc voilà, donc j'ai fini par vivre avec BHL.
Pourquoi Bernard-Henri ?
Parce que c'est comme ça, parce que c'est mon...
Bien sûr, mais pourquoi vos parents ont-ils décidé de vous prénommer Bernard-Henri ?
Parce que c'est l'époque où les familles juives françaises intégralement assimilées donner des prénoms aussi chrétiens que possible à leurs enfants. Et ma mère, qui était une grande lectrice, une liseuse qui vivait dans les livres, hein, qui faisait partie de ces êtres qui peuvent dire que la mort de Lucien de Rubempré est le plus grand chagrin de leur vie. Ma maman était ainsi. Il y avait un personnage de roman qu'elle admirait infiniment. C'était le héros des faux-monnayeurs de Gide, qui s'appelait Bernard Profitant-Dieu, je crois, dans mon souvenir. Et puis, il y avait un écrivain qui a dû beaucoup la frapper aussi, qui était le deuxième Monterland, le Monterland d'après la guerre. Probablement celui des jeunes filles, j'imagine. Et donc, elle m'a donné ce second prénom.
Pas de prénom juif, mais une famille juive. Bernard-Henri Lévy, vous êtes né en 1948 en Algérie. Vous avez des souvenirs de l'Algérie ?
Aucun. Aucun souvenir. C'est même d'ailleurs un rapport au monde bizarre de ne pas avoir d'image de son lieu de naissance. Ni souvenir, ni même image. D'abord, j'ai assez peu de souvenirs d'enfance en général, mais en tout cas pas de cette époque-là de ma vie, puisque je n'ai jamais vécu en Algérie. Ma mère était née, avait passé sa jeunesse en Algérie, mon père la même chose. Mes parents, au moment de ma naissance, sont revenus en Algérie quelques jours, le temps de me mettre au monde, littéralement. Donc je n'ai pas d'image. Comme je suis né dans un lieu peu connu, un village qui s'appelle Benissaf, je suis longtemps resté sans même image rapportée. Vous voyez, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de choses. Enfin, avant Google, en tout cas, il n'y avait pas d'image de Benissaf. Et le seul moment où j'en ai eu une image, c'est au début des années 90-91. Je réalisais pour la télévision un grand documentaire, une histoire des intellectuels français. Il y avait un moment Camus. Je vais donc en Algérie, sur les traces d'Albert Camus, et puis au détour d'un déplacement, je vois sur une carte d'Algérie, je vois pour la première fois écrit le nom de mon lieu de naissance. Évidemment, ça me fait très étrange. Je l'avais jamais vu même écrit, autrement que sur mon passeport, hein, mais jamais sur une carte. Et là, je me revois appelant ma femme, Arielle Dombal, et lui dire, voilà, je viens de voir ce nom écrit. Je connais bien les théories selon lesquelles on est lié par les fibres de son corps à un lieu de naissance, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a là quelque chose d'organique, de tellurique, de physique. Eh bien, on va faire un test. Je vais faire une expérience barésienne chimiquement pure. Soit un individu qui n'a pas d'expérience de son lieu de naissance, pas d'image de son lieu de naissance, même pas d'idée de son lieu de naissance, supposons-le posé sur le lieu de naissance en question, que se passe-t-il ? Et donc, il demande de venir avec une petite caméra. J'avais 50 ans, 53 ans. Et donc, je suis allé pour la première fois à Bénissaf procéder à cette expérience barésienne chimiquement pure, dont le résultat a été absolument négatif. C'est-à-dire que cela n'a pas augmenté l'idée que j'avais de moi-même, ça n'a rien apporté. Mes parents étaient vivants à l'époque, donc je leur ai demandé évidemment par téléphone des informations. Je suis allé au 1 rue Karl Marx, où j'étais donc né. Le 1 rue Karl Marx ne m'a pas procuré d'autre effet que la surprise et peut-être la jouissance du signifiant, mais à peine. Je savais que j'avais 4 oncles qui s'appelaient Yamin, Maklouf, Messaoud et Moïse, qui étaient morts, mais qui se réunissaient dans un petit café sur la place centrale de Bénissaf. Je suis allé, j'ai filmé tout ça. Et avec beaucoup d'intérêt, mais sans émotion particulière. Voilà.
L'histoire de votre famille en Algérie, Bernard-Henri Dévy, quelle est-elle ? Qu'est-ce que vous connaissez des activités, des traces de vos ancêtres là-bas ?
Je n'en sais pas grand-chose parce qu'en vérité, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé, honnêtement. Et vous connaissez ce mot de Peggy, je crois que c'est dans Notre Jeunesse, où il parle de sa propre famille, famille de paysans français, sans beaucoup de traces, justement, qui n'ont pas fait souche en histoire, dans l'histoire universelle. Et il parle d'une race inalphabète. Hein, inalphabète, je crois que c'est le mot de Peggy. C'est un peu mon cas. C'est-à-dire que, étrangement, je ne m'y suis pas énormément intéressé, mais même lorsqu'il m'est arrivé de le faire, les traces se perdent très vite. Je n'ai pas d'idée de mes ancêtres au-delà de ceux que j'ai connus au fond. Du côté de mon père, son père était un photographe de mascara ostracisé par les Français d'Algérie, de la ville, et qui ne l'autorisait donc à ne photographier que les musulmans. Il n'avait pas le droit de photographier les colons français. Et du côté de ma mère, donc ce grand-père-là, je l'ai connu. De l'autre côté, j'avais un grand-père que je n'ai pas connu, qui lui était une sorte de berger qui transportait des troupeaux entre probablement le Loranais et le Maroc espagnol, en camion, à pied, je ne sais pas très bien. Mais c'était un marchand de bestiaux, probablement. Voilà. Et au-delà de ces deux grands-pères, franchement, je ne sais rien.
Vos premiers souvenirs d'enfance, puisque vous dites, Bernard-Henri Lévy, que vous en avez peu, à partir de quand en avez-vous ?
Franchement, vous savez, pour avoir des souvenirs, bon, bien sûr, il y a la mémoire involontaire, mais enfin, les vrais souvenirs, c'est quand même des images sur lesquelles on s'attarde, auxquelles on réfléchit, que l'on met en rapport avec d'autres. Et comme je suis très peu familier de cet exercice-là, du coup, j'ai peu de souvenirs, franchement. C'est-à-dire que les souvenirs que j'ai ne travaillent pas, ne sont pas élaborés, ne sont pas montés les uns avec les autres. Donc j'ai des traces éparses et inertes. Alors évidemment, j'ai des images, oui, de moi au Maroc, où mes parents ont passé les premières années de ma petite enfance. J'ai dû passer jusqu'à l'âge de 6 ans à Casablanca. Donc j'ai quelques images, mais vraiment si peu. Vraiment si peu. Après, j'ai des images peut-être davantage quand je suis un peu plus grand, quand j'arrive à Paris.
En quelle année ?
En 1954. Oui, je dois être la fin de l'école primaire. Je commence à avoir des souvenirs un peu plus précis du lycée, au lycée Pasteur. Mais là, c'est plus lié à des camarades. Et puis des camarades qui le sont restés, voilà. Donc du coup, ça crée une espèce de cordée dans la mémoire. Sinon, des souvenirs rompus, vous voyez, comme des fleurs coupées. Honnêtement, il faut que je me force pour en retrouver. Bien sûr, je les ai, mais il faut que je m'emploie à aller les glaner.
Vous nous avez un peu parlé de votre mère, votre père.
Ah, mon père était un personnage magnifique. D'abord, il était beau. Il avait une grande souveraineté. Hein. C'est, s'il y a bien un homme dans ma vie auquel j'ai pu attacher ce mot-là de souveraineté, c'est lui. Il a eu une jeunesse glorieuse, grand Français libre, décoré dans une des batailles les plus décisives et les plus terribles de la libération de l'Europe, la bataille de Monte Cassino, décoré par une légende de la France libre qui était le général Diego Brosset, et puis engagé très très tôt, à 18 ans à peine, en Espagne, dans les brigades internationales à Barcelone, dans les tout derniers mois de la guerre, il n'avait même pas encore 18 ans, janvier 1938. Donc, un passé héroïque, une image héroïque à mes yeux. Et puis...
Pourquoi il s'est engagé ?
À l'époque, il était jeune communiste. D'abord, je sais peu de choses de mon père aussi, pour être tout à fait franc, parce qu'il était ce qu'on appelle aujourd'hui un taiseux. Il disait très peu de choses. Il était secret, il était énigmatique, y compris avec les plus proches. Et il est resté jusqu'au bout pour moi, alors que nous étions vraiment très proches, hein, très 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 proches, mais il est resté un bloc de silence et de secret jusqu'à la fin. Et donc, pourquoi s'est-il engagé, un jeune communiste, dans cette Algérie d'avant-guerre porté vers cela, et puis ensuite parce qu'il était un jeune homme qui voyait venir l'ombre et les ailes noires du fascisme et que cela révoltait. Et il a pris tous les risques pour le combattre. Voilà, il était idéaliste, un mélange probablement d'idéalisme et de réalisme, l'idéalisme des convictions et le réalisme des moyens à mettre en œuvre. Et je crois que les deux s'étaient assez bien montés l'un sur l'autre.
Quel était le judaïsme de votre mère et de votre père ?
Inexistant. Enfin, il y avait deux choses. Il y avait un grand mépris pour le judaïsme honteux. Il y avait un grand mépris pour les juifs qui, après la guerre, avaient changé leur nom, ou qui avaient gardé un nom d'emprunt. Enfin, il y avait cette idée-là, que le nom était quelque chose qui devait être porté pour le meilleur et le pire. Mais enfin, c'était un judaïsme réduit à cela, réduit au nom. À part ça, je crois que chez l'un comme chez l'autre, il y avait cette idée que l'être juif avait apporté plus de malheur que de joie, que c'était quelque chose dont il fallait peu à peu s'écarter. Il y a eu une espèce de nouvelle de deuxième Haskalah à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Haskalah, c'est les Lumières.
Les Lumières juives, oui. Une deuxième... émancipation, d'une autre forme, émancipation après la tragédie, après la Shoah, avec l'idée fausse, je crois, que pour que cela ne revienne pas, il fallait aussi liquider autant que faire possible le vieux juif en soi. Il y avait cette idée. Et j'ai d'ailleurs un souvenir qui m'émeut beaucoup. Comme vous savez, j'écris un premier livre d'abord sur les Indes, le Bangladesh, j'en écris un second, La barbarie, visage humain. Ce livre a un peu de succès, je deviens un intellectuel pour mes parents, hein, un normalien agrégé de philosophie et un intellectuel français qui dialogue avec Michel Foucault, avec les plus grands de l'époque. Et mon livre d'après s'appelle « Le Testament de Dieu ». C'est un livre sur le judaïsme, sur la Torah et sur le Talmud. Et je me souviens de la première réaction de mes parents lorsque je leur avais apporté ce manuscrit, c'était une réaction de consternation polie et aimante, mais de consternation quand même. L'idée que je puisse revenir après le succès éclatant de la barbarie visage humain vers ce que Lévinas appelait les vieux traités vermoulus, etc., cette idée les accablait. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment... Quand on avait réalisé cette percée dans l'univers de la gentilité, et quand on avait été dans les écoles françaises les plus prestigieuses, autrement dit, quand on s'était arraché à ce fond de malédiction à quoi ils associaient tout de même l'être juif, comment on pouvait décider de revenir dans ce que Jean Daniel, plus tard, mais qui ressemblait à bien des égards à mon père, Jean Daniel, a appelé la prison juive. Voilà, on est sorti de prison, pourquoi est-ce qu'on y revient ? Alors, je vous rassure sur un point, si j'ai tenté que ça vous inquiète, mais l'un comme l'autre sont revenus sur ce jugement. Ils ont compris. Voilà, parce qu'ils étaient tous les deux extrêmement cultivés et intelligents. Mais le premier réflexe était ce réflexe d'accablement.
L'éducation que vous avez reçue, la manière dont ils vous ont soutenu ou pas, d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, quel était le rapport que vous entreteniez avec vos parents ? Vous nous avez un peu dit que votre père était taiseux, votre mère. Comment accompagnait-il vos premières années ?
Je ne saurais pas dire.
Ils étaient présents, ils étaient...
Oui, ils étaient évidemment... L'un comme l'autre était bien sûr présent. Après, j'ai eu une enfance compliquée parce que je n'étais pas seul. J'ai un frère et une sœur qui, pour l'un d'entre eux en tout cas, requéraient beaucoup plus d'attention que moi. Et donc, voilà.
Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ?
Non, ce n'est pas utile. Mais enfin, ils étaient présents, oui, ils étaient présents. Et j'étais très lié à l'un comme à l'autre. Ma mère était... Je vous l'ai dit, extrêmement féru de littérature et au fond, d'ailleurs, ma bibliothèque. Un homme se définit beaucoup par sa bibliothèque, par la façon dont ses livres y sont rangés, un écrivain plus encore. Et je pense que dans une bibliothèque d'une femme ou d'un homme, il y a des cellules souches. Hein, elle a un point de départ, c'est comme une ville. Eh bien, la souche de ma bibliothèque, imperceptible, à un regard extérieur, vous ne vous en aviseriez pas, mais moi je sais. Et même aveugle, comme Borges, je saurais où. La souche, c'est les livres de ma mère. Parmi les quelques milliers d'ouvrages que je peux avoir dans ma bibliothèque, il y en a probablement, je ne sais pas, peut-être une centaine, peut-être 200, des vieux livres des années 50-60, avec en page de garde son nom et l'année où elle les a lus, au stylo. Ces livres-là, ce sont les piliers de ma bibliothèque, physiquement. Hein, ce sont les armatures de ma bibliothèque. Et ça l'est tellement, je vous dis, que vraiment je pourrais y aller sans tâtonner. Je sais où ils sont, même si je ne les regarde pas tous les jours, et même si pour certains, je ne les ai pas consultés depuis longtemps. Mais ils émettent dans une bibliothèque, ces livres-là, dans ma bibliothèque, ils émettent une espèce de radiation étrange, invisible à l'œil du quiconque, mais visible à moi. Donc mon rapport à elle, il est là.
Mais ça, c'est très cérébral. Sur le plan affectif, donc on a compris que vous veniez d'une famille nombreuse, de 3 enfants. Est-ce que c'était une famille heureuse, malheureuse, pour différentes raisons ?
Famille d'abord heureuse, et puis après, il y a eu une tragédie familiale qui fait que cette famille est devenue malheureuse. Voilà. Heureuse jusqu'à un certain moment, et puis malheureuse après.
Une certaine gravité. Vous avez le souvenir, malgré tout, de fêtes. Alors, vous parlez de vos souvenirs de lycée. Qu'est-ce que vous faisiez ? Est-ce que vous aviez des occupations qui étaient celles d'un enfant de votre âge ? Ou bien, au contraire, est-ce que cela vous a incité à une forme de gravité ?
Non. Enfin, non, si. Mais dans l'enfance, il y a deux choses qui m'intéressaient. Un peu faire du sport. J'aimais ça. Dans l'équipe de rugby du lycée Pasteur, du judo, des sports de combat en général, ça j'en ai fait beaucoup, du bâton japonais, du jiu-jitsu, un peu de karaté et du judo.
Vous étiez un enfant bagarreur ?
Oui. Donc ça m'intéressait et le résultat, je lisais. Voilà. Donc je lisais et je me préparais à me bagarrer, en essayant de me bagarrer le moins possible. Et puis je m'intéressais probablement... Tout de même, non. Très tôt, je me suis intéressé à l'amour, à ce que l'amour serait. Voilà.
De manière...
En rêvant à des personnages féminins, en rêvant, je ne sais pas, aux plus jolies amies de ma mère. Les femmes m'ont assez tôt fasciné.
Des amitiés à l'époque, puisque vous, Vous avez dit tout à l'heure que vos premiers souvenirs étaient ceux donc du lycée, d'amis que vous avez conservés. C'était un milieu aisé, donc c'était le lycée Pasteur à Neuilly. C'était un milieu juif ou bien au contraire un milieu où il y avait toutes sortes de personnes, Bernard-Henri Lévy?
Non, c'était pas... D'abord, ça vous paraîtra étrange, mais mes parents n'avaient pas d'amis, très peu d'amis. Et surtout, très peu de vie sociale, d'aucune sorte, juive ou pas juive. Voilà, quand je me souviens de ces années-là, ils voyaient tous les films qui sortaient, ils allaient au théâtre, ils allaient écouter des concerts, mais c'était un couple amoureux, et ils vivaient l'un près de l'autre, et ils partageaient cette expérience avec très très peu d'amis, quasiment pas d'amis, voilà, disons-le ainsi. C'est... Donc pas de milieu, quoi. Pas de... Je me souviens pas de mes parents appartenant à un milieu quel qu'il fût.
Un milieu familial ?
À peine. À peine. Ils avaient tous les deux des familles, bien sûr, des familles nombreuses, même des... Mais ils s'étaient écartés de tout cela. Ils avaient vraiment recommencé leur vie, quoi. Et...
Pourquoi recommencer leur vie ? Vous voulez dire à partir du mariage ?
Non, à partir de... Non, là. La Shoah, l'antisémitisme, le triomphe puis la défaite du fascisme ont été des expériences vraiment de pour cette génération-là dont on a peine à mesurer la peut-être la, le caractère refondateur. C'est-à-dire on a une femme ou un homme né dans les années 20 du XXe siècle qui ont 20 ans, 25 ans en 1945, ils décident de tout recommencer, même s'ils ne sont plus d'extrême gauche. Mon père n'est plus communiste après la guerre. Il a été avant la guerre. Et en 1945, il construit un empire, ce qui va devenir un empire industriel, etc. Et il
est... Dans quel domaine ?
Dans le domaine des métiers du bois. Mais il y a vraiment l'idée, je dis ça parce que c'est une idée qu'on a plutôt l'habitude d'entendre chez les gauchistes, quoi. Recommencer, couper l'histoire en deux, la page blanche de l'humanité nouvelle, et ainsi de suite. C'est un thème d'extrême gauche très familier. Mais même chez des bourgeois juifs, mes parents sont devenus des bourgeois, de ces années-là, il y avait cette idée-là, qu'il fallait tout recommencer, tout reprendre, tout reprendre. Donc, tout reprendre, ça veut dire vraiment couper les amarres. Moi, je me rappelle pas mes parents retournant... Alors là, pour le coup, sur le lieu de leur enfance, où ils avaient laissé des souvenirs, des amis, c'est-à-dire en Algérie. Un peu, bien sûr, un peu, mais à peine.
Qu'est-ce qu'ils espéraient pour leur fils, pour vous, Bernard-Henri Lévy ?
Qu'est-ce qu'ils espéraient pour moi ?
Est-ce qu'ils avaient un projet ?
Il me semble à peu près ce que je suis devenu, voilà. C'est pas tellement fréquent, puisque... En général, les parents, comme disait Sartre dans la préface à Aden Arabi, cousent dans la peau de leurs enfants leurs propres rêves, projets, etc. Et en général, ça ne marche pas. Et ça donne même des névroses épouvantables. Dans mon cas, ça a plutôt marché. Je crois que ma mère a vraiment rêvé que je sois un écrivain. Mon père a dû finir par se rallier à son rêve, et puis ça a marché. Voilà. Donc, ils étaient contents.
Mais ils n'auraient pas imaginé autre chose. Votre père, il voulait autre chose ? Il voulait que vous repreniez, je ne sais pas, l'activité ?
Peut-être. Il a dû avoir cette idée-là. Oui, il a eu cette idée-là un temps. Et puis, il y a eu un moment... il y a eu un moment d'ailleurs très précis. Je sais, après le baccalauréat, je suis entré en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, en maths sup. Là, c'était le désir de mon père, que je fasse des études scientifiques et que j'entre à Polytechnique, École des Mines, machin, etc. Et puis, j'ai fait une espèce de petite dépression d'adolescent. Cette rentrée 1966, je pense, je suis en maths sup au lycée Pasteur. J'ai vraiment le sentiment que je ne suis pas à ma place, que je passe à côté de ce que je désire. Et je profite d'un voyage de mon père qui voyageait beaucoup pour, je ne sais pas, je profite de ce voyage pour entrer en dépression, faire à ma mère, qui elle était très littéraire, une sorte de chantage sentimental, et par changer complètement d'orientation et entrer en hypocagne. Donc une sorte de coup d'état familial, ourdi par moi et auquel ma mère consent, que mon père découvre à son retour. À l'époque, il n'y a pas les portables, il n'y a pas tout ça. Et je ne sais pas, en octobre, peut-être, novembre, je ne sais plus très bien, de l'année scolaire, je suis passé de d'hypotaupe, de maths sup, en hypocagne. C'est pas rien hein, pour un adolescent. C'est pas rien pour mon père, qui, évidemment, est très, très surpris à son retour d'apprendre la nouvelle. Et si j'essaie de me remémorer ce moment, je crois qu'il y a dû y avoir probablement un moment d'abord de déception, puisqu'il avait peut-être une autre idée. Et puis là encore, il a très vite compris. Il a compris que c'est ça que je voulais, il a compris que c'est ça qui me ressemblait. Et puis à partir de là, il m'a soutenu dans mes moindres entreprises scolaires, l'entrée à l'école normale. Il était avec moi quand je suis allé voir les noms des admis affichés au 45 rue d'Ulm. Il était même à mes côtés. Et puis ainsi de suite, quoi. Dans toute ma carrière d'écrivain, d'intellectuel engagé, il a toujours été totalement à mes côtés.
Dans cette enfance, on l'a compris, à l'ombre d'un malheur, pour dire les choses ainsi, Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous étiez fixé le but d'épater vos parents, de les impressionner, de les rendre, je ne sais pas, peut-être heureux parce que dans d'autres domaines, ils ne pouvaient pas l'être?
Non, je ne dirais pas ça. En revanche, j'ai beaucoup vécu, mais pas plus vivant que mort, sous le regard de mon père, ça oui. Et sous le regard de ces expériences originaires dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, guerre d'Espagne, France libre, cette ombre-là a vraiment baigné ma vie, de leur vivant. Mais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, quand je vais en Ukraine ou ailleurs, c'est un peu lui que j'ai en tête. Et c'est pour essayer de faire aussi bien que lui et pour essayer faire en sorte que s'il était vivant, il soit fier de moi. Oui, oui, il y a cette idée, bien sûr.
Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. À demain. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Félicie Faugère, une série de Guillaume Erner à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.